Bonjour à tous et bienvenue dans l'affiche de la semaine, votre nouveau rendez-vous proposé par l'équipe Lucarne Opposée. Alors qu'est-ce donc que l'affiche de la semaine ? C'est tout simplement un match qu'il ne faudra pas manquer durant votre week-end, un rendez-vous incontournable que nous allons utiliser comme prétexte pour faire comme d'habitude, un petit peu de culture foot et donc vous raconter quelques histoires. Et quoi de mieux pour débuter cette nouvelle série d'émissions qu'un voyage au Brésil, pour ce Fluminense Botafogo que les intimes appellent le Vovô, pour Classico Vovô. Alors on reviendra dans un instant sur le pourquoi de ce nom, même si vous parlez portugais, vous avez déjà une certaine avance et vous avez déjà compris ou au moins une idée du pourquoi de la chose. Alors vous connaissez probablement d'autres classicos brésiliens, je pense au Majestoso entre le Corinthians et Sao Paulo, ou encore évidemment, le mythique Fla-Flu, qui est un autre classico carioca, car oui, messieurs, dames, le Vovô est un classico de Rio de Janeiro, et il va opposer donc deux des grands clubs de la ville, le Fluminense et Botafogo. Alors brièvement un petit peu l'histoire des deux équipes. Le premier à arriver dans le paysage, c'est bien évidemment le Fluminense. Alors bien évidemment, pourquoi ? Parce qu'il est fondé par Oscar Cox, le Brésilien d'origine anglaise qui a importé tout simplement le football à Rio. Et donc, Fluminense arrive en juillet 1902. Il est le premier club entièrement et totalement consacré au football à être mis en place au pays. Vous savez sans doute que la plupart des clubs de football sont issus de clubs omnisports et souvent des clubs d'aviron le Fluminense non, lui il est directement et totalement destiné au football et son nom vient du latin flumen qui signifie rivière ou tout simplement rio évidemment. Alors au début le Fluminense va jouer en blanc et gris et va prendre ses couleurs définitives en 1905, donc assez rapidement, couleurs qui vont lui donner l'un de ses surnoms, le tricolore. Alors à l'échelle du Carioca, le Fluminense c'est quand même un club qui pèse assez fortement, puisque c'est tout simplement le club le plus titré du XXe siècle, avec 28 titres. Il a été doublé depuis, puisqu'aujourd'hui en 2018 il est à 31, et il a été doublé par l'ennemi héréditaire, le Flamengo, qui lui en compte 34. Alors sur le plan national et continental, Fluminense c'est 4 titres nationaux, et 6 participations à la Libertadores, avec comme meilleure performance une finale 2008 qui a été perdue face à la Liga de Quito. Alors d'ailleurs, c'est assez amusant, mais le Fluminense va réussir l'exploit assez prodigieux de perdre la Libertadores 2008 face à la LDU et de perdre la Sudamericana 2009, donc la suivante, face à la LDU. Voilà, tout simplement. Alors le club va connaître plusieurs époques dorées, notamment deux grandes, et deux qui sont à l'époque où on va appeler le Fluminense la Machina, dans les années 70. Tout d'abord celle qui lance la carrière d'entraîneur d'un homme qui a été l'une des idoles au club, où il a fait ses débuts et avec qui il a disputé plus de 550 matchs. Alors si vous êtes fan de précision, 559. Cet homme, c'est tout simplement Tele Santana, qui doit parler à tous les amoureux de football brésilien et qui a quand même laissé son nom dans l'imaginaire footballistique mondial et collectif. Ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est celle qui va être notamment initiée par Rivelino et qui va trouver son apogée en 1984. Mais alors pour cela, et vous allez voir, ça sert à ça aussi cette émission, on va spoiler un petit peu. Je vous invite à découvrir le prochain magazine de Lucarne Opposée qui sortira au mois de février parce qu'il sera notamment question de ce Fluminense de 1984. Alors, suite à ces deux machinas des années 70 et 80, il va y avoir des années 90 qui sont un petit peu plus compliquées pour le club qui va même carrément se retrouver en 3e division brésilienne à l'échelle nationale. À l'heure d'entrée dans notre siècle actuel, le 21e. Alors le club est champion de série C, donc de 3e division en 99, et bon, il y a des petites choses qui font qu'il se retrouve direct en série A, en première division, le tas du championnat de 2000. On en reparlera sans doute un jour parce qu'il est amusant ce championnat. Et depuis, le club va alterner le bon et le moins bon, à l'image donc de ces deux finales continentales de 2008 et 2009, suivies de deux titres dans le championnat national en 2010 et 2012. Mais le moins bon, ça va être aussi des sauvetages un petit peu limite, voire sur tapis vert, dans l'élite brésilienne dès 2013. Alors en Carioca, donc, on l'a dit, Fluminense au 21e siècle, c'est seulement 3 titres et une finale perdue l'an passé face à Flamengo. On vous dira merci à Paulo Guerreiro et la bise à tous nos amis péruviens. Donc vous voyez, historiquement parlant, au Brésil, Fluminense, c'est un club qui compte et qui ne compte pas seulement sur le plan sportif. De par ses origines, un fondateur issu de l'élite britannico-brésilienne, dirons-nous, le Fluminense peut donc être perçu comme le club des élites. Bon, on n'est pas très loin non plus de cela pour Botafogo, hein, il faut le dire. Mais Botafogo va tout de même naître en opposition directe à Fluminense. En 1904, des adolescents décident de créer un club de foot, qu'ils vont d'abord nommer Electro FC avant de le nommer Botafogo. Et comme le rapporte Leonardo Afonso da Miranda Pereira dans son livre Football Mania, l'objectif est de mettre fin à la sélection sur des critères élitistes du Fluminense, même si le Fluminense restait quand même le modèle. Reste que la principale opposition avec le Fluminense n'est pas une opposition basée sur des critères de lutte des classes, dirons-nous, ce sont surtout une opposition basée sur le fait que le Fluminense était le club des hommes, des vrais, alors que le Botafogo était celui des adolescents, puisque ses créateurs, hein, Flavio Ramos et Emmanuel Sodré, que je n'avais pas nommé jusqu'ici, avaient 15 ans à la création du club, et étaient quand même issus de familles relativement aisées. Hein, donc voilà, on va oublier tout de suite la lutte des classes qui a longtemps marqué d'autres classicos au Brésil et également en Amérique du Sud. En fait, si vous cherchez le vrai club du peuple, celui qui porte les luttes sociales et même les luttes raciales à Rio, c'est Vasco. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le sujet, je vous invite à lire ou à relire, si ça a déjà été fait, le papier de Marcelin à ce sujet sur Lucarne Opposée. Alors, donc, Fluminense et Botafogo sont quand même des clubs qui sont liés hein, à leur début. On peut prendre quelques exemples, hein, puisque certains membres des uns vont aussi porter ou défendre les couleurs des autres. Oscar Cox, par exemple, sera membre du Botafogo. Francis Walter, qui a été président, alors lui, qui a été président de Flamengo, de Fluminense, il va être aussi membre de Botafogo. Donc, vous voyez, il y a des liens, mais même s'ils ont des liens, ils vont rapidement se chamailler assez fortement. Alors, sur le plan comptable, le Botafogo, c'est 20 Carioca, quatrième du palmarès, deux titres de champion du Brésil, et surtout, la grande différence avec son rival de ce week-end, un titre continental, la Copa Conmebol 1993. Alors, je rappelle, hein, la Copa Conmebol, c'est l'un des précurseurs, hein, l'un des ancêtres de la Sudamericana, et donc, Botafogo la gagne en 93 face au Peñarol. Alors, du côté des idoles, il est impossible de ne pas citer ceux de l'époque dorée des années 50-60 qui ont tous marqué l'histoire du football brésilien, mais surtout l'histoire du football mondial. Alors on a ainsi Mario Zagallo, hein, qui va passer 7 ans au club à partir de 1958. Et on a surtout trois autres joueurs. Didi, qui a la particularité de disputer 300 matchs, plus de 300 matchs avec le Botafogo entre 56 et 65. Bon, il y a quelques piges ailleurs entre-temps, durant cette période. Mais il en a surtout aussi pratiquement disputé autant avec le Fluminense avant, donc voilà. Mais ces deux joueurs sont deux icônes, et il y a deux autres icônes absolues au club. Le premier, c'est Nilton Santos, qui est l'homme qui a révolutionné tout simplement le poste de latéral gauche, les latéraux gauche et droit maintenant, hein, au Brésil, qui ont des particularités très clairement identifiées. Sont des héritiers de Nilton Santos, hein, et c'est lui qui a changé complètement ce poste, et lui n'a porté qu'une seule couleur durant toute sa carrière, ce sont les couleurs noires et blanches du Botafogo. Il y a passé 16 ans, il y a joué plus de 700 matchs, et pour vous donner une idée, aujourd'hui, le nom du stade du Botafogo, c'est Nilton Santos, tout simplement. Et la deuxième idole absolue du Botafogo, c'est tout simplement Mané Garrincha, la légende, l'homme dont l'histoire est une tragédie absolue, et l'homme qui va donner véritablement ses lettres de noblesse au numéro 7 au club. Le numéro 7 du club au Botafogo est un numéro particulier. C'est le numéro que l'on donne généralement aux joueurs que l'on considère les meilleurs de l'effectif. Alors par exemple, dans les années 70, il sera porté par Jairzinho, hein, qui a joué à l'OM. Et petite anecdote, on va continuer là-dessus sur les anecdotes, dont le fils Jair Ventura était le coach du Botafogo cette année en 2017. Il ne l'est plus. Alors dernière chose à savoir sur le Botafogo. Le club évolue en noir et blanc, je viens de le dire, et il porte ce maillot à rayures depuis 1906. Pourquoi un maillot à rayures noir et blanche? C'est tout simplement une inspiration directe du maillot de la Juventus, car l'un de ses fondateurs, Itamar Tavares, était devenu fan du club italien lors de son séjour en Italie. Enfin, dernier point, le Botafogo possède probablement le surnom le plus classe de tout le football mondial. grâce notamment à son écusson. Alors, le club actuel, hein, en tant que tel, est issu d'une fusion, hein, la fusion du club d'aviron et du club de foot, fusion qui date de 1942, donc assez tard, hein, par rapport à la création des clubs. Et il a été choisi un seul emblème qui était présent sur le club d'aviron, qui est une étoile à cinq branches, une étoile blanche sur un fond noir. Et cette étoile, elle symbolise l'étoile du berger, tout simplement, qui, comme vous le savez, en fait, n'est pas une étoile, mais la planète Vénus. Et cette planète Vénus, on peut la contempler à l'aube sur la baie du quartier de Botafogo, assez régulièrement. Et donc, une étoile blanche sur un fond noir, le Botafogo est juste, tout simplement, devenu le club de l'étoile solitaire. Avouez, c'est quand même vachement la classe. Alors, on va revenir sur notre affaire du jour, le Classico Vovo. Alors, le premier officiel qui se joue, il se déroule en mai 1906 et il va se solder par une victoire assez nette, dirons-nous, du Fluminense 8-0. Mais le tout premier de chez premier avait eu lieu en octobre 1905. Et là aussi, victoire assez nette du Fluminense 6-0. Alors, on vous disait, hein, tout à l'heure, le club des hommes face au club des ados. Donc, la différence se voyait aussi sur le terrain. Et donc, si vous parlez portugais, vous l'aviez compris, la clé est ici. 1905 ou 1906, si on se base uniquement sur le terme officiel. Le Classico Vovô, c'est tout simplement le plus vieux Classico du Brésil. C'est pour cela qu'on l'appelle le grand-père de tous les Classicos, grand-père en portugais se disant Vovô. Donc vous l'avez. Et ça va même plus loin qu'être le plus ancien Classico du Brésil. C'est tout simplement le troisième plus vieux Classico du continent, donc d'Amérique du Sud. Alors, on va faire un petit quiz. Est-ce que vous savez derrière lesquels? Non, alors, ou pas, ou oui peut-être, le premier, le plus vieux, c'est le Classico entre Peñarol et Nacional. Si vous considérez que le Peñarol est l'héritier du CURCC, on en reparlera probablement un jour. Et le deuxième plus vieux Classico du continent, c'est un Classico argentin, et non, c'est pas Boca River, c'est le Classico Rosarino entre Central et Newell's. Donc vous voyez que notre Classico Vovo, il est quand même en bonne compagnie. Alors ok, c'est le plus vieux au Brésil, les deux clubs sont liés et tout et tout. Je vois bien, vous vous demandez, alors à partir de quand est-ce que ce Classico Vovo va partir véritablement en vrille? À partir de quand il va y avoir une vraie rivalité qui va naître entre ces deux clubs? Parce que parfois des Classicos sont pas forcément extrêmement virulents. Et bah devinez quoi, ça arrive dès 1907, au cours d'une polémique qui va durer pratiquement 90 ans. Oui oui, vous avez bien entendu, 90 ans. Nous sommes donc en 1907 pour le Carioca. Alors Botafogo n'est pas encore au Glorioso, hein, surnom qu'il va prendre en 1910 lorsqu'il domine totalement ce championnat, hein, 9 victoires, 1 défaite en 10 matchs, pour 66 buts marqués et 9 seulement encaissés, des statistiques qui laissent un petit peu rêveur certains supporters. En 1907 par contre, le Fluminense lui est en haut, hein, déjà c'est tout simplement le champion sortant. Et pour sa deuxième saison, à disputer ce championnat d'État de Rio, Botafogo va pourtant lutter à armes égales avec le tricolore, le tenant du titre donc, et sa victoire 4-2 lors du Classico du 22 septembre laisse entrevoir à l'étoile solitaire la possibilité d'un premier titre. Pour cela, la semaine suivante, Botafogo doit jouer l'international, rien à voir donc avec celui de Porto Alegre, et c'est qu'il doit réaliser un véritable carton, alors non seulement pour rester devant, et donc continuer à maintenir la pression sur Fluminense, mais surtout pour faire son retard à la différence de but. Alors le souci, c'est que ce 29 septembre, le match entre Botafogo et l'International n'aura pas lieu. L'International ne se présente qu'avec 6 joueurs et va finir par déclarer forfait. Alors, ça va donner la victoire à Botafogo. Donc Botafogo s'impose évidemment 3-0. Et 3-0, ça ne suffit pas forcément quand on a envie de mettre un véritable carton et de rattraper son retard à la différence de but. Et ça pose un deuxième problème, c'est que selon le règlement, comme l'Inter a été forfait sur ce match, il est déclaré et il est suspendu pour le match suivant. Et devinez quoi, le match suivant, c'est face à qui? Face à Fluminense. Donc Fluminense gagne aussi 3-0 et garde son avance tranquille à la différence de but. Alors un dernier succès du tricolore face à Paysandu va lui permettre de rester en tête. En fait, tout simplement, les deux équipes terminent le championnat à égalité de points. Et Fluminense dispose donc d'une meilleure différence de but, plus 10 contre plus 5. Alors vous allez me dire, comment on les départage? C'est simple, on regarde la différence de but. Oui, bah oui, c'est simple. Sauf que c'est pas simple à l'époque. Parce que c'est là que le problème arrive et les versions diffèrent quant à la position prise par la Ligue de l'État de Rio à l'époque. Et le manque forcément de couverture journalistique entretient un petit peu ce flou. autour de la situation. Alors, selon certaines versions, il n'avait jamais été décidé d'aller au-delà du simple fait de départager au nombre de points. Selon d'autres versions, les clubs avaient voté en mars de la même année, 1907, une résolution selon laquelle la différence de but serait utilisée comme deuxième critère. Le souci, c'est que ce vote, soi-disant, n'a pas été pris à l'unanimité, mais il a été fait à la majorité, et certains clubs, notamment Botafogo, s'étaient opposés à cela. Et donc Botafogo, lui, une fois que ce championnat est terminé, une fois que les deux équipes sont à égalité de points, eh ben, veut s'appuyer un petit peu sur une affaire qui avait fait jurisprudence, une pas si vieille, hein, la saison précédente, en 1906, puisque en deuxième division de ce Carioca, deuxième division, entre l'América et Riachuelo, les deux équipes, à la fin de la saison, avaient terminé à égalité de points et avaient décidé de faire un match, et s'étaient arrangés pour faire un match d'appui afin de déterminer qui serait champion. Alors, Botafogo veut donc profiter du flou et s'appuyer, aucun jeu de mots avec Luminense, autour de la situation, et surtout donc s'appuyer sur cette jurisprudence-là pour demander à la Liga Metropolitana de Football, donc la Ligue de l'État de Rio, de régler l'affaire par un match d'appui. Voilà, ça paraît simple, hein? Sauf que si América et Riachuelo s'étaient mis d'accord en 1906, bah Fluminense et Botafogo vont jamais se mettre d'accord. Fluminense se proclame champion, Botafogo peste, aucune décision n'est prise. Et l'affaire va un petit peu plus loin parce que l'international qui a mis un petit peu la zouille hein, dans l'histoire, et certains hein, théoriciens du complot pensent que Fluminense n'est pas étranger au fait hein, que l'international est déclaré forfait parce qu'on n'a pas eu de véritable raison au fait que l'international n'a présenté que 6 joueurs face à Botafogo. Et l'international est tout simplement viré du Carioca. Alors Fluminense, lui, en solidarité, va décider de quitter la Ligue. D'autres clubs vont suivre. Alors vous imaginez un peu le bazar que ça va mettre. Et vous imaginez aussi pourquoi ça entretient cette théorie du complot. Et la conséquence, elle est simple. C'est que la Liga Metropolitana de football, elle va être dissoute. Et donc l'année suivante, elle sera remplacée par une autre ligue, la Liga Metropolitana des Sports Atléticos, qui organisera le championnat de 1908. Championnat qui sera gagné par qui? Devinez, Fluminense, devant qui? Devinez, Botafogo. Voilà, on est bien là. Et donc pendant près de 8 décennies, l'affaire ne va pas être réglée. Il n'y aura pas de champion 1907. On ne saura pas qui de Fluminense ou de Botafogo, ou les deux, ou personne, sera déclaré champion. Il va y avoir 8 décennies de combats juridiques, un titre qui va être un coup, notamment à partir de 1989, oui j'ai bien dit 1989, un titre qui va être d'abord attribué à Botafogo, des appels qui sont pris par Fluminense qui va récupérer le titre, puis au final ça va revenir à Botafogo. Enfin, c'est le bazar, ça va durer sept nouvelles années, et finalement, en 1996, la Federação de Football de l'Estado de Rio, donc celle qui gère aujourd'hui le Carioca, va prendre une décision forte et irréversible. Le titre de 1907, il est pour tous les deux. Voilà, au moins comme ça, on ne se mouille pas trop. Il y a donc deux champions en 1907, Botafogo et Fluminense. Et alors, dans les faits, c'est toujours pas réglé en fait. Et l'affaire n'est toujours pas enterrée. Pourquoi l'affaire est si importante? On parle d'un championnat de 1907. Eh bien, parce que l'enjeu, c'est de savoir qui est le premier tetracampeão, donc le quadruple champion. Carioca. Parce que ce titre de 1907 va donner ce privilège à Fluminense, qui a été champion en 1906 et qui le sera en 8 et en 9. Donc ça lui donnerait 4 titres consécutifs. Et Botafogo, lui, il l'a été. Et il a été le premier, si on oublie celui de 1907, puisqu'il est en 32, 33, 34 et 35. Et Botafogo n'en a que faire de ce titre de 1907, ne le partage toujours pas. Et si vous voulez en avoir la preuve, et preuve que cette affaire n'est toujours pas enterrée, c'est le maillot commémoratif lancé par le Fogão en 2016, donc il y a 2 ans même pas, qui montre que dessus est inscrit sur un écusson Único Tetracampeão, Carioca. Voilà. Donc vous voyez, le grand-père des Classicos a beau être le plus vieux, il est encore bien, bien vivace. C'est aussi cela que vous pourrez donc suivre dans notre affiche de la semaine. Alors rendez-vous est donc pris ce samedi à 20h heure française, aucune excuse donc ne sera accepté concernant un possible décalage horaire. Et rendez-vous donc sur tous les bons streams du web. Alors je sais, c'est pas bien de dire ça, c'est totalement illégal, mais en même temps, le jour où la télé française diffusera un match de ce type n'est pas encore arrivé. Allez, je sais qu'il vous manque quelque chose, que vous aimeriez un dernier petit truc avant de nous quitter, hein, un chiffre genre le bilan. Eh ben non, le bilan, vous savez quoi, ils arrivent même pas à se mettre d'accord là-dessus. selon la version du Botafogo, on est à 350 matchs pour un total de 127 à 119 en faveur du Fluminense. Alors que selon le tricolore, il faut rajouter ceux d'un tournoi qui s'appelait le Torneo Inicio. Ça fait donc un total de 367 matchs pour un bilan de 132 à 122, toujours par contre en faveur du Fluminense. Bon, vous voulez une certitude? Allez, le résultat du dernier affrontement entre ces deux équipes lors d'un Carioca, c'était l'année dernière, bien évidemment, lors de la Tassa Rio en demi-finale. La Tassa Rio, c'est la deuxième phase du championnat Carioca. Et Botafogo s'est imposé 3 à 1. Alors comme ça, c'est une certitude, eh ben, on va faire simple. Je vais vous laisser avec les buts de ce Classico Vovo de la Tassa Rio 2017. Les buts en VO. Je vous dis donc, Botafogo Fluminense, c'est à suivre ce samedi, 20h. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre affiche de la semaine. Allez, abraço a todos.
Posicionamento na área. Lá vem cobrança do Gilson. Ele faz o levantamento. Dudu subiu. Toque de cabeça. Gol de Igor Rabelo para o Botafogo. O jovem zagueiro do Botafogo aparou de cabeça. Também Renan Fonseca, Igor Rabelo, os grandalhões. Dudu Cearense também, levantamento, toque de cabeça do Dudu. Gol do Botafogo! Dudu Cearense de cabeça arrancando. Bola para ele, Sassá, marcado em cima, limpou bonito, Sassá bateu, golaço! Gol do Glorioso! É de Sassá, número 9! À direita, Guilherme, dança para o Fluminense, partiu Richarlison, bateu, gol do Fluminense, Richarlison, com o repique Neymar, bateu no cantinho direito, o Gatito chegou nela, por pouco ele não defende.